Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous. Et cette fois-ci, il est vraiment exceptionnel parce qu'on a une vedette qui est avec nous. On a Jacqueline Moureau qui est avec nous. Voilà, Jacqueline qui publie « Jacqueline qui, réponse à Éric Zemmour », préfacée par Michel Onfray. Puisque vous êtes originaire de Guérande, hein,
Jacqueline, tout à fait.
Vous êtes à La Roche-Bernard. Et puis on a Jean Gauchemann pour Guérande aussi, voilà. Alors Jean, un sujet, est-ce que vous avez envie d'aborder un sujet qu'on va évoquer tous les trois?
Je pense qu'il y a un sujet d'actualité qui doit quand même intéresser beaucoup de gens en ce moment, qui est ce qui s'est passé au niveau des banques américaines et notamment dans la Silicon Valley. On a dit beaucoup de choses. Je pense qu'il faut, pour analyser d'une manière correcte ce sujet, se replacer un petit peu dans un contexte. Le contexte, c'est les trois années que nous avons vécues sur un plan mondial, et notamment ce qu'on a appelé les années Covid, qui finalement ont amené une diminution de l'appareil productif mondial. Bon, nous, en France, on a été bien sûr touchés comme beaucoup d'autres pays, mais on n'a pas été les seuls. Ce qui fait qu'il y a eu, ça a provoqué, au fil du temps, un manque de certains produits, qu'on ne retrouvait plus d'ailleurs dans les rayons de nos...
D'où le fait, dans les rayons, on nous disait qu'il faut attendre 6 mois. Attendre.
Et on sait très bien qu'une raréfaction de produits a un effet, c'est que ça fait augmenter le prix des produits qui, eux, restent disponibles. Si on ajoute à ça le fait que la période du Covid se caractérise par une création monétaire extrêmement importante, pour ne pas dire impressionnante, rien qu'en France, il a fallu créer à peu près 500 milliards d'euros supplémentaires, puisqu'évidemment, cet argent n'était pas disponible et il a fallu l'emprunter. Or, emprunter, c'est un joli mot, mais emprunter, ça veut dire surtout création monétaire à partir de rien. Seulement, on crée de l'argent à partir de rien, mais il faut quand même rembourser la dette et avec les intérêts, parce que c'est ça, finalement. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où il y avait beaucoup, énormément de liquidités, d'argent emprunté, donc qui ruisselait, pour reprendre un terme à la mode, des produits se raréfiant. Le résultat, ça a été une inflation telle qu'on ne l'avait jamais connue. Pour juguler cette inflation, les banques centrales ont fait la seule chose qu'elles puissent faire, c'est-à-dire augmenter les taux d'intérêt. Il faut bien voir justement que ces emprunts avaient été rendus possibles, les emprunts dont je parlais tout à l'heure avaient été rendus possibles, parce que les taux d'intérêt étaient extrêmement faibles, voire nuls dans certains cas. Et le fait de monter les taux d'intérêt en soi, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait envisager. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y a une raréfaction de la monnaie, puisque les gens qui veulent emprunter ont beaucoup moins de capacité à le faire. Que s'est-il donc passé, plus particulièrement à la Silicon Valley? La banque de la Silicon Valley avait une particularité dans sa clientèle, c'est qu'elle avait un très gros pourcentage de ce qu'on appelle des start-up, c'est-à-dire des entreprises en gestation, à très forte croissance.
À potentiel. À potentiel.
À potentiel de croissance, mais...
Il nous donne un bon cours d'économie, hein.
Oui, c'est bien, c'est intéressant.
Mais qui nécessite, pour ce faire, des emprunts d'une manière constante, puisque l'augmentation de capital se fait au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise. Bien. Encore faut-il trouver de l'argent également pour payer les dépenses courantes des entreprises. La plupart d'entre elles avaient mis un petit peu d'argent de côté et évidemment, ces dépôts s'étaient retrouvés à la banque de la Silicon Valley. Ce qui ne posait aucun problème. Le crédit se raréfiant, les charges, elles, ne se raréfiant pas. Il a bien fallu que toutes ces start-up payent leurs engagements. Et souvent, d'ailleurs, c'était des engagements hebdomadaires parce que, petit rappel, bon, qui n'a pas un intérêt énorme, mais simplement par curiosité, les salaires américains sont versés à la semaine. Ça veut dire que toutes les fins de semaine, il faut payer les salaires. Voilà. Donc, qu'ont fait ces start-up? Eh bien, elles sont allées voir leurs banquiers dans lesquels elles avaient déposé leur argent, leur épargne, enfin disons leur compte courant, pour récupérer une partie de ces dépôts afin de faire face à leurs dépenses. Il se trouve que, comme elles ont été très nombreuses à le faire, la banque, qui est pourtant une banque extrêmement solide, avec, je crois, autour de 200 milliards de dollars d'actifs, s'est trouvée à court de liquidités. Donc, il a fallu qu'ils vendent une partie de leurs placements. Or, ces placements avaient été faits essentiellement, enfin pour une grande partie, par des bons du Trésor américain. Bon, les bons du Trésor américain sont bien sûr des valeurs sûres. Ils ont d'abord une valeur nominale en dollars, mais surtout, ils s'échangent et ils peuvent devenir une monnaie d'échange, évidemment en fonction de l'intérêt qu'ils sont censés rapporter. Or, il se trouve que l'augmentation des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, consécutif à l'inflation, à la lutte de l'inflation, s'était traduit par une augmentation des taux d'intérêt sur les bons du Trésor américain, et que ces bons du Trésor rapportaient 4,5%, alors que ceux qui avaient été mis avant rapportaient beaucoup moins. Ce qui fait que ceux qui rapportent beaucoup moins perdent pratiquement, enfin, une valeur importante par rapport aux nouveaux. Donc, lorsque cette banque a voulu mettre sur le marché ces bons du Trésor américain de l'ancienne génération, aux anciens taux d'intérêt, il s'en est suivi une décote relativement importante, puisque sur 21 milliards de dollars de bons du Trésor, elle n'en a en fait récupéré que 19, ce qui lui a fait une perte sèche dans ses fonds propres de 2 milliards de dollars, ce qui est quand même énorme. Et alors, sans rentrer dans trop de détails, parce que si on voulait faire, comment dirais-je, une expertise anatomique du système bancaire, ça nous prendrait beaucoup de temps, mais il faut simplement savoir que les fonds propres des banques sont, c'est un, comment dirais-je, un pourcentage fixe de leurs encours de prêt. C'est ce qu'on appelle, comment dirais-je, le système des réserves proportionnelles. C'est-à-dire qu'il y a une règle qui est valable aux États-Unis, mais nous avons à peu près les mêmes en Europe, qui sont ce qu'on appelle des règles de prudence des bancaires, qui ne peuvent pas prêter plus d'argent qu'une certaine partie de leur capital. À titre d'exemple, le plus courant, c'est qu'une banque ne peut pas prêter 9 fois plus d'argent qu'elle n'a en fonds propres. Son fonds propre étant son capital en action, et également, il faut en tenir compte maintenant, la loi les autorise à le faire, les dépôts des clients. Donc, ayant perdu 2 milliards de fonds propres, ça avait une incidence sur son encours de prêt. Et là, ce qu'il faut bien voir, et ça c'est le plus important, c'est que les bons du Trésor ont perdu non seulement leur valeur pour la banque, mais pour l'ensemble de tous les bons du Trésor de la même époque. Ce qui fait qu'il y avait des banques beaucoup plus importantes aux États-Unis qui elles-mêmes avaient des bons du Trésor américain et qui ont immédiatement pris la même perte, parce que ce qui fait la valeur d'un bon du Trésor, c'est la valeur de la dernière transaction. Si les bons ont été vendus à moins 10%, ça veut dire que tous les fonds propres des banques qui avaient des bons du Trésor ont perdu exactement proportionnellement la même chose. Ce qui fait, pour donner et pour terminer là-dessus, les 4 premières banques américaines, sur cette opération-là, ont perdu à L4 plus de 52 milliards de dollars. Donc, on a décidé immédiatement de mettre en faillite la banque de la Silicon Valley.
Jacqueline, ça vous inspire une question ? Vous avez appris des choses ?
Oui, avec Jean.
Pas économiste,
avec Jean, on apprend en permanence. C'est un trésor de savoir. Moi, ce qui me fait peur là-dedans, parce que bien entendu, il va y avoir, malgré ce que dit Bruno Le Maire, qu'en France tout est protégé, mais bon, ils nous ont tellement bien protégés qu'on ne peut qu'en rire. S'il ne fallait pas en pleurer, est-ce que l'épargne, parce que c'est ça notre question à nous, est-ce que l'épargne des Français est en danger ? C'est ça qu'il faut savoir aujourd'hui. Quand je vais à Paris, j'ai pu remarquer en fait que les magasins qui vendent de l'or sont pleins. Les Parisiens ont acheté de l'or. Est-ce que l'épargne des Français est en danger aujourd'hui ?
Elle est en danger, enfin, les épargnes que les Français ont dans leur compte en banque, aujourd'hui, sont protégées d'après, comment dirais-je, la réglementation à hauteur de 100 000 euros par compte.
Oui.
Maintenant, qu'est-ce que ça vaut ?
Est-ce que c'est provisionné, ça, on ne sait pas ?
Ah non, c'est absolument pas provisionné dans les banques.
Voilà.
Non, parce que 100 000 euros par compte en banque, ça donnerait un plein en garantie absolument extraordinaire que les banques n'ont pas. Non, c'est un engagement. En fait, ce qui s'est passé d'ailleurs aux États-Unis, lorsque la...
Mais on dit les Français, Jean, on 100 000 euros, c'est protégé. Très honnêtement, je connais des gens qui ont 1 800 000 euros, mais j'en connais encore beaucoup plus qui n'ont même pas 5 000 euros d'épargne.
Bien sûr.
Donc,
alors, tout dépend. Bien sûr. Bon, aujourd'hui, 3 000 euros, c'est en fait, je crois que c'est une directive gouvernementale qui dit qu'ils maintiennent, enfin, qu'ils ont une garantie jusqu'à 100 000 euros par compte. Bon. Il y avait...
C'est pas Christine Lagarde, ça? C'est pas plutôt européen? C'est pas une directive européenne?
Non. La directive européenne, elle était
sur les 100 000
autre nature.
Euros.
Alors la directive européenne, qui est une directive de 2016, si ma mémoire est bonne, était d'une toute autre nature. En fait, ça revient au même sujet. C'est simplement que l'argent des déposants était considéré comme faisant partie des fonds propres de la banque et que les actionnaires n'étaient pas en première ligne. En première ligne, c'était les déposants. C'est-à-dire qu'on prend d'abord l'argent des déposants avant de prendre l'argent des actionnaires.
C'est pas mal, hein?
Bon. Parce que normalement, les banques étant des sociétés anonymes, l'engagement de l'actionnaire est limité à la part qu'il détient du capital.
Alors, est-ce qu'il peut y avoir un crash d'une banque française? On dit souvent, par exemple, en ce moment, je lis, que c'est la Société Générale qui serait la plus fragile de toutes. Hein, Jacqueline,
la banqueroute. Et est-ce qu'on va vers une banqueroute? Très exactement.
Alors, terminer là-dessus. Voilà.
Oui. Alors, qu'est-ce qui fait la fragilité d'une banque? Eh bien, c'est justement ce qu'on appelle son effet de levier. C'est-à-dire, ce sont les réserves fractionnaires dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le rapport entre les encours de prêt et les fonds propres de la banque. Si les encours de prêt deviennent extrêmement importants par rapport aux fonds propres de la banque, et les fonds propres de la banque, c'est des actions. Imaginez, une banque perd 5%. Bon, la BNP a perdu beaucoup plus la semaine dernière, comme la Générale. Mais vous perdez 5%. Vous avez un capital, allez, disons, pour arrondir, 100 milliards. 100 milliards de fonds propres à la banque, 900 milliards d'encours de prêt. Vous perdez 5% sur ces 100 milliards. Vous n'avez plus que 95 milliards. Ça veut dire que vous dépassez votre encours de prêt de 50 milliards. Donc, il faut que vous retrouviez immédiatement de quoi reconstituer vos fonds propres pour maintenir justement ce qu'on appelle les règles de Bâle IV. Bon, si une banque n'arrive pas aux règles de Bâle IV, elle est liquidée.
D'accord.
Bon, c'est bien. Donc, en gros, nous sommes en danger.
Oui, mais moi qui est... franchement, Jacqueline, je ne sais pas si beaucoup de gens sont en danger, hein, ceux qui nous écoutent, mais enfin...
Bah, moi, c'est clair, je ne suis pas en danger du tout.
100 000 euros.
Mais je suis désolée.
Mais c'est pour la France. On est d'accord.
Non, il y a quand même des personnes âgées qui ont mis de l'argent de côté toute leur vie et qui se retrouvent. C'est leur patrimoine presque pour ceux qui n'ont pas investi cet argent et qui ont de l'argent en banque et qui vont se retrouver plumés. Donc, moi, je dis, faites très attention. Faites très attention, je veux pas qu'il y ait et comme disait d'ailleurs un ami que vous connaissez bien, Pierre Jovanovic, l'autre jour, il disait aujourd'hui une banqueroute ça peut aller très très vite, parce qu'avant il fallait aller à la banque retirer son argent. Aujourd'hui on a tous notre banque sur le téléphone, il suffit d'appuyer sur un bouton à la vitesse de la lumière, c'est la banqueroute.
Voilà. Merci Jacqueline pour cette précision. Pour ceux qui seraient tentés de ricaner dans leur voiture en disant « Ouais, de toute façon, 100 000 euros, je ne sais pas, et puis tant mieux, et puis tant pis, etc. » Mais c'est bien d'avoir précisé ça. Il y a des personnes âgées, ça peut être le fruit d'une économie.
C'est le fruit d'une vie.
On peut très bien avoir même 100 000 euros de passage sur son compte, le temps de vendre une maison, racheter un autre appartement, un appart, 100 000 euros qui traînent sur le compte pendant 3 mois, si ça arrive le temps de la banqueroute.
Ils sont cuits.
C'est toute la vie. Voilà. Merci. Jean Gauchemann, pour ce numéro, a évoqué la faillite des banques américaines avec des explications incroyables. Et puis on était avec Jacqueline Moreau, on ne l'a pas trop entendu, mais on l'entend la prochaine fois, qui publie Jacqueline Key, la réponse à Éric Zemmour, aux éditions Bouquin, un livre vraiment passionnant qui nous emmène au cœur, pas simplement au cœur de la campagne d'Éric Zemmour, c'est bien plus que ça, c'est un cri du cœur d'une passionnée de la France profonde, de la France rurale, aux politiques d'une manière générale, pour qu'ils soient entendus. C'est surtout ça, moi, ce que je retiens de votre livre.
Merci beaucoup. Merci.
Merci.